Bienvenue à Sur la ligne, ce radio-podcast tout tennis cette semaine. Pour la troisième fois en trois tournois, Félix Auger-Aliassime remporte un titre. Est-il le meilleur joueur au monde présentement? N'oublions pas Chapeau qui a bien fait de son côté aussi. On se tourne également vers le tournoi de Paris, tournoi qui décidera des dernières places à l'enjeu pour les finales de l'ATP. Du côté des femmes, les finales aussi, elles s'amorcent cette semaine aux États-Unis. Et Leila Annie Fernandez est l'une des athlètes les mieux payées au monde. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok, oui.
C'est parti.
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode en direct de Sur la ligne. Ça fait quelques semaines qu'on ne l'a pas fait en direct, c'est parce qu'on est de retour à l'heure normale, on n'avait pas de montage à faire. Très content de vous retrouver, on a une grosse semaine, il s'est passé beaucoup de choses dans l'actualité de tennis cette semaine, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Alors on a un gros menu pour vous aujourd'hui, mais d'abord et avant tout, salutations d'usage. Nicolas Richard, comment te portes-tu à l'intérieur de ton somptueux garage?
Tout à fait, ça va très bien, messieurs, un autre week-end qu'on n'a pas vu passer tellement il y a de l'action. Fantastique week-end pour les Canadiens au tennis. On va en reparler tout au long de l'émission, mais ça a été un week-end, je pense, dont on va se souvenir extrêmement longtemps.
Mais toi, là, entre l'athlétisme et tous les sports, là, comment tu fais pour trouver du temps pour suivre le tennis? Dors-tu un peu?
On dort le strict minimum avec le patin de vitesse en fin de semaine, le football, le baseball aussi, beaucoup de tennis. Non, le divan est confortable. C'est ça la clé. Un bon divan pour être sûr de passer des week-ends enflammés.
Bon, ben écoute, on est content de savoir que tu as trouvé la recette parfaite. Hugues Léger, en direct de l'hôtel Bonville, de retour à mes côtés, de retour de son voyage prestigieux à New York. Comment te portes-tu?
Ça va super bien, Alex. Puis on en parlait un peu avec Nico avant d'entrer en onde. On a joué au tennis tous les deux à l'extérieur ce week-end. Et ça, c'est un vrai bonheur d'arriver à la fin octobre et réussir à rattraper des balles par un beau samedi, un beau dimanche à 13, 14, 15 degrés. Pour moi, c'est un grand plaisir là, de profiter de ces dernières journées à l'extérieur. Mais je remarque un truc, on va en parler durant l'émission, évidemment. La performance de Denis et de Félix en ce moment dans des tournois intérieurs, c'est pas un hasard. On est dans un pays d'hiver, on sait qu'on apprend à jouer, qu'on joue beaucoup à l'intérieur au Québec, au Canada. Et je pense que leur succès actuel dans la série Indoors de l'automne n'est pas étrangère au fait qu'ils ont grandi aussi sur des terrains intérieurs.
D'ailleurs, il y en a qui considèrent le indoors comme une quatrième surface. Là. Moi, ce n'est pas mon cas. Je ne le considère pas comme une autre surface. Je le considère quand même comme une surface dure, mais certains en font la différence. Je ne sais pas, toi, tu en penses quoi? C'est-tu une autre surface?
Ben, c'est pas une autre surface en tant que telle. C'est juste que les conditions sont tellement parfaites, évidemment, maîtrisées. Il n'y a pas le facteur soleil, vent, qui peuvent jouer même humidité au niveau des balles, qui sont tous des facteurs que les joueurs ne contrôlent pas et qui viennent affecter leur jeu. Et pour les joueurs de précision, comme un Félix ou comme un Shapovalov, ça les aide évidemment que les conditions soient parfaites. Le service de Félix qui fonctionne tellement bien en ce moment, c'est pas étranger qui joue dans des conditions parfaites. Donc, c'est pas une cinquième surface, mais c'est des conditions tout à fait particulières, le indoors.
Ben, en tout cas, moi aussi, je suis dans des conditions parfaites, messieurs, avec deux collègues comme vous, chevronnés là, et compétents. Alors, ben écoutez, partons cette émission-là, parlons de tennis puisque c'est notre mandat, messieurs. Bon, à tout seigneur, tout honneur, commençons avec Félix Auger-Aliassime. Je suis allé aux sources, messieurs. Trois tournois, trois titres en trois semaines. C'est une première dans l'histoire du tennis canadien, on s'en doutait, mais j'ai la confirmation. Ouais. Je vais aller même plus loin que ça. Deux titres en deux semaines, c'était une première dans l'histoire du tennis canadien. Alors, Félix, deux premières en deux semaines, c'est phénoménal ce qu'il réussit à faire. Commentaire sur cette victoire-là, Nicolas Richard, je commence avec toi.
C'est dommage, puis c'est bête là, dans un radio-podcast, mais il n'y a pas
de
grand-chose.
De tous les mots que je pensais que tu allais dire, c'est commencer avec dommage et pas grand-chose. De tous les mots,
dans la mesure où il n'y a pas grand-chose à dire, outre le fait que Félix, présentement, puis je l'ai écrit hier sur Twitter, est le meilleur joueur au monde au mois d'octobre. Son jeu est parfait, il maîtrise son art comme il ne l'a jamais autant maîtrisé. Son service est à point, ses coups droits sont fumants, ses revers sont précis. Ses moitiés au filet sont calculés, sa stratégie est à point. Tout va bien pour Félix. Il n'y a rien qui cloche. Évidemment que le Masters 1000 de Paris, c'est un gros tournoi. C'est un Masters 1000. Il y a beaucoup à l'enjeu. Mais pour moi, il part comme favori de ce tournoi-là. Et ça a été une autre fin de semaine pendant laquelle il a battu le numéro 1 mondial de manière aisée. Ça n'a jamais été serré. Alcaraz n'a jamais été dans le coup. Donc, de voir Félix rugir. Rappelez-vous, les gars, puis j'en étais un de ceux-là qui disait il y a quelques mois, il me semble que Félix, il n'y a pas la hargne, il n'y a pas cette combativité. En fin de semaine, j'ai ravalé mes paroles, les gars. Mais en fait, depuis trois semaines, parce qu'il a l'œil du tigre, il a le feu dans les yeux, il est en mission. C'est splendide et je pense qu'on vit présentement le plus beau de Félix Auger-Aliassime.
Oui, bien ça, en tout cas, vous savez que moi, je n'ai jamais vraiment été d'accord avec ça. Alors, merci Félix de confirmer ce que je sais depuis le début et clame depuis le début. Hugues Léger, tu semblais d'accord quand même avec les commentaires de Nico?
Ben complètement. Quelques stats vraiment impressionnantes. 13e victoire consécutive. Félix ne perd plus, évidemment, c'est un sommet personnel. On l'a dit, 3e titre consécutif, 2 ATP 250 et maintenant 1 ATP 500. Mais surtout, aucun bris de service cette semaine. On le répète depuis quelques semaines, il est impérial au service. Et ça met une pression énorme sur ses adversaires, sur leur service. C'est pour ça que plusieurs victoires de Félix se concluent en 2-7, en fait, depuis quelques semaines, parce que les gars ne réussissent pas à toucher son service. Des taux de première balle entre 75 et 80 sur une base constante, c'est très, très rare qu'on voit ça. Et c'est seulement le troisième joueur cette année à gagner un tournoi sans avoir été breaké une seule fois. Les deux autres sont Taylor Fritz et Nick Kyrgios. Donc, stat vraiment, vraiment impressionnante, là, le fait qu'il soit presque jamais breaké. Moi aussi, je souligne comme Nico sa victoire contre Alcaraz en demi-finale, qui est peut-être son trophée de chasse le plus imposant depuis les dernières semaines, numéro un mondial. Ça fait trois fois de suite qu'il bat Alcaraz. Et moi, c'est cette stat-là, puis on sait comment Alcaraz est un compétiteur féroce. Ça me donne tous les espoirs pour la suite pour Félix. Effectivement, j'en parlais avec notre collègue Jean-Charles Lajoie ce matin. Il n'a plus la même attitude quand il entre sur le terrain. Là. Il n'a pas les mêmes yeux, il a le feu dans les yeux. It's all business quand même au moment du tirage au sort pour qui va servir. On voit un Félix là, qui est prêt pour... qui est parti pour la gloire en ce moment. Là. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait et la manière dont il le fait. Il joue d'une façon précise, technique. Tout fonctionne dans son jeu. Je pense que c'est le joueur que personne ne veut affronter en ce moment.
Et juste pour ajouter un petit quelque chose, Alex, juste pour compléter sur Alcaraz et Félix, en fin de semaine, Félix, ce qu'il a fait, c'est pas simplement battre Alcaraz, c'est qu'il a semé une graine de doute dans la tête d'Alcaraz, parce que si on se projette et que Alcaraz et Félix se rencontrent, par exemple, en demi-finale en Australie, Alcaraz arrive déjà avec la mentalité de « ce gars-là m'a battu trois fois et je l'ai jamais battu ». Donc, ce que Félix a fait présentement, puis les deux vont se retrouver assurément beaucoup de fois d'ici les 10-15 prochaines années. Donc, si Félix peut déjà semer un doute dans la tête d'Alcaraz, c'est fantastique et c'est énorme déjà.
Tu parlais des statistiques au service. Hugues, je pense que pour le tournoi au complet, il est autour de 70 %, ce qui est très bon pour un tournoi au complet. Et j'ai une autre stat, messieurs, pour vous qui me jette à terre d'une certaine manière parce que c'est assez spectaculaire. Là. Dans ses 86 dernières parties au service, il a 93 as. Ça veut dire qu'il part 15-0 ou presque à chaque partie au service. Oui. Il y a plus d'un as par partie au service en moyenne. Alors, c'est dire à quel point son service est efficace présentement. Et on l'a toujours dit dans le cas de Félix, quand le service va, tout va. Il a un des meilleurs services au monde. Quand la première balle rentre à un gros taux de pourcentage, il va se donner des chances de battre n'importe qui sur ce circuit-là.
Puis ce que j'ai aimé, Alex, pour moi, un signe des très grands champions, c'est quand ils font face à une balle de break sur leur service, ils vont sortir une très grosse première ou même un as. Et ce que Félix a fait régulièrement, d'ailleurs, quand il s'est fait un peu pousser dans le deuxième set, contre Olgeroun, qui était serré, il a sorti un ou deux as sur des balles de break pour effacer ces balles de break-là. Exactement. Donc ça, c'est un signe que le gars est en pleine confiance, que ça fonctionne. Et je le répète, c'est un signe des plus grands champions. Je pense à Evan Lendl, à John McEnroe, à Pete Sampras, évidemment. Ils étaient dans le trouble sur le service. Oh, attention, il va être breaké. Bing, un os ou deux os qui arrive. Donc ça, c'est un autre signe extrêmement encourageant pour Félix.
Et messieurs, Holger-Rune, on parle de Carlos Alcaraz, là, mais c'est pas le dernier vu. Et surtout, le dernier venu. Et surtout, c'est un gars qui était bien en jambes, là. C'est pas un gars qui sortait de nulle part. Il a fait la finale à Sofia au début octobre. A gagné le tournoi devant à Stockholm, alors qu'il a battu, attachez vos tuques, Christian Garin, Cameron Norrie, Alex Dominar et Stefanos Tsitsipas dans le même tournoi. Ah, et il venait de rebattre encore une fois Alex Dominar, Hugo Humbert. Il a battu Roberto Bautista Agut. Le seul qu'il n'a pas réussi à battre, c'est Félix. Alors, si Félix était peut-être le joueur le plus en feu au mois d'octobre, Holger-Rune est deux ou trois pas loin, là, certainement. Ouais. Alors, c'est quand même une grosse victoire en finale, même si la victoire contre Alcaraz peut-être frappe un peu plus l'imaginaire, là, mais peut-être que quand on va regarder cette victoire-là dans 10 ans, alors que Holger-Rune aura déjà été numéro un mondial, peut-être que ça va être considéré comme une grande victoire. Et autre élément, et là, je vous mets sur le spot, là, les gars, là. Je dis, vous m'impressionnez souvent, mais celle-là est tough. Félix est le premier en à peu près un an et demi ou un peu moins là, à remporter 3 tournois de suite. Qui était le dernier? Indice, c'est un gars qui aurait pu être numéro un mondial cette année.
Nadal.
Casper Ruud. Alors ça remonte à sa séquence, vous vous souvenez, c'est un peu là qu'on l'avait connu sur sa séquence sur terre battue.
Mais Alex, je veux rajouter un peu sur Holger-Rune. Écoute, il a 19 ans, très très jeune, protégé de Mouratoglou qui était présent avec lui hier dans son box pour la finale à Bâle.
Parce qu'il n'y a plus à s'occuper de Simona Halep.
Oui, exact. Je n'ai pas fait de commentaire là-dessus, mais bon, il a quand même témoigné son soutien à Halep sur Twitter.
Tout le monde
l'a fait. Mais il est impressionnant, Rune. Il rentre dans le top 20 cette semaine pour la première fois. Il était là pour gagner hier. Hein. Il n'était pas impressionné par Félix. Et ça a chauffé dans le deuxième set, qui s'est finalement terminé 7-5. Mais on voit un autre jeune qui est en train de poindre, là, qui va monter encore très vite. Je pense que c'est que le début. Très bon joueur de terre battue. Bon en indoors aussi. Donc, on voit qu'il est prêt pour toutes les surfaces en plus. On a un sacré client là, en Holger-Rune là, qu'on a vu contre Félix hier.
Et c'est un gars d'ailleurs qui est déjà, si je ne me trompe pas, qualifié pour le tournoi final de la Next Gen.
Oui, alors, confirmé.
Et ce tournoi-là, dans les dernières années, a prouvé que c'était véritablement la Next Gen parce que il a mis sur la map, entre guillemets, des joueurs comme Tsitsipas, Alcaraz, Sinner, nommez-les, là, Félix, etc. Alors, écoutez, c'est un tournoi prestigieux et à ne pas, comment dire, voir avec, à regarder de haut, si on veut, là.
Alex, juste un petit truc avant qu'on termine ce segment sur Félix. Ça fait beaucoup de tennis qu'il joue depuis quelques semaines. Ma seule petite préoccupation, c'est dans quel état il est aujourd'hui. Il va avoir une ou deux journées de repos. Je pense pas qu'il va commencer avant demain soir ou même mercredi durant la journée à Paris. Parce qu'il a un bail, évidemment, au premier tour. Il est 8e tête de série du tournoi. J'espère juste qu'il est encore en forme, qu'il va aller chercher un tour ou deux au minimum à Paris. Je pense qu'il peut le gagner, moi aussi. Mais ça fait beaucoup de tennis semaine après semaine. Et on veut qu'il arrive aussi en forme pour les finales de l'ATP dans 2 semaines.
Ben, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. T'sais, espérons qu'il reste encore un peu d'énergie dans le réservoir jusqu'à la fin de la saison parce qu'il y a des gros tournois qui s'en viennent, incluant Paris, tournoi de la fin de saison.
Coupe Davis.
Oui. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on se réjouit et avec raison de ce qui se passe, mais faudrait pas se surprendre s'il y a une baisse de régime et elle sera très compréhensible. Hey, juste avant qu'on change de sujet, tu me parlais du tournoi de la Next Gen. Messieurs, savez-vous, sans regarder, qui est premier dans le tournoi de la Next Gen présentement? Est facile, mais quand on y pense, ça peut être plus compliqué.
Votre Alcaraz?
Alcaraz, ben oui. T'sais, on y pense pas. T'sais, le gars, il est numéro un mondial. Il pourrait jouer ce tournoi-là. Ça vous donne l'idée d'à quel point ce qu'il réussit cette année, c'est phénoménal, Alcaraz. Oui, vas-y, Nico.
Non, continue donc.
Mais j'allais dire, ça ajoute à la victoire de Félix. C'est ce que j'allais dire. Nico, vas-y donc avec...
Juste pour compléter sur Félix, pour clore le sujet, là, il y a un truc que je veux aviser puis dont je veux parler. J'ai vu beaucoup en fin de semaine des commentaires sur Twitter notamment. Lorsqu'on commentait, on a tweeté en fin de semaine les gars sur Félix, évidemment. Et il y a beaucoup d'amateurs de tennis-ish là, qui... qui dévalorisait cette séquence-là de Félix parce que ce sont des 250, parce que ce sont des 500, parce que ce sont des tournois de fin de saison. Je veux juste rappeler aux gens à quel point, puis Alex, tu le soulignes presque chaque semaine, à quel point jouer au tennis, c'est difficile, top. À quel point être dans le top 50, c'est difficile, et à quel point gagner un seul tournoi dans sa carrière, c'est difficile, voire miraculeux lorsqu'on pense à la quantité de gens qui jouent au tennis. D'autant plus que, puis la comparaison, je pense qu'elle est valable, lorsqu'on parle des 103 victoires de Roger Federer, lorsqu'on parle des 82 victoires en carrière de Tiger Woods, on ne dit jamais, oui, sur 103, mais il y en a 25 qui étaient plus... Des titres, ce sont des titres. Donc, ce que Félix fait en ce moment, c'est extraordinaire. Cette séquence-là, elle est historique. Ouais. Et il n'y a aucune possibilité pour moi de dénigrer ce qu'il est en train de faire parce que ce sont des tournois 250, parce que ce sont des tournois intérieurs ou parce que ce sont au mois d'octobre. Il ne remporte pas des tournois. C'est fascinant, c'est extraordinaire. C'est la seule parenthèse que je voulais faire parce que pour moi, il est hors de question de dénigrer ce que Félix fait. Et ceci, sans chauvinisme ou sans exagération, j'aurais dit la même chose si ça avait été Kasperud ou Alcaraz. Là. Gagner trois tournois de suite, peu importe le calibre, c'est fantastique.
Ouais. Elle est justifiée, ta mise au point. Puis, regarde, je vais juste te dropper des noms, comme on dit. Rooney, c'est-tu un piment, ça? Alcaraz, c'est-tu un piment? Sébastien Corda, Richard Gasquet, Daniel Evans, c'est des piments? Lorenzo Musetti, là, qui a détruit il y a trois semaines. Là. Ouais. Écoute, c'est peut-être des tournois de bas niveau, mais ça veut pas dire, quand tu as le numéro un mondial dans ton tableau, là, je te dis, tu as beau dire que c'est un 250 ou un 500, mais il faut que tu passes à travers le numéro un mondial. Là. Alors, à quiconque voudrait diminuer ce genre de tournoi-là, regardez le tableau, puis la réponse va vous sauter d'en face à savoir si c'est un tournoi légitime, une victoire légitime ou pas.
En tout cas, je peux vous dire que Hubert Hurkacz et Taylor Fritz auraient aimé ça gagner ces tournois-là depuis trois semaines. Juste pour de faire un petit point là, sur la race en ce moment, ceux qui courent après Félix en ce moment et qui vont sûrement pas le rattraper. Je pense à Fritz qui est le seul qui pourrait encore le rattraper puis l'exclure, là, mais ça va pas arriver. Mais donc, encore une fois, c'est des grandes victoires. Là, des grandes victoires.
On va en reparler. Tu vas nous faire un petit portrait de cette race-là, mais on va le faire dans le cadre du tournoi de Paris. Mais avant, justement, parlant de Taylor Fritz, il y en a un qui l'a battu la semaine passée, puis son nom, c'est Denis Chapovalov, qui a donné un coup de main à Félix dans cette course-là. Et c'est un autre bon tournoi pour Chapeau. Et honnêtement, ça commence à ressembler à une bonne fin de saison pour Chapovalov. Hugues, commentaire sur cette finale de Denis Chapovalov à Vienne.
Ben, on a vu un classique Medvedev en même temps qui prend un set pour s'ajuster un petit peu et finalement réussit à trouver une solution. Mais Denis a vraiment très bien joué. Comme il joue bien depuis plusieurs semaines, c'est vraiment le fun de voir nos deux Canadiens performer en parallèle dans deux ATP 500. Donc, Denis à Vienne qui prend le premier set 6-4 à Daniil Medvedev, qui était numéro un mondial, on s'en souvient, il n'y a pas très longtemps. Et je pense qu'il est en grande forme, Medvedev. Je dis tout de suite attention à lui à Paris cette semaine. Mais ça va très bien pour Denis. Les choses sont de retour sur la bonne voie pour lui après une saison estivale un peu plus compliquée. Mais j'aime beaucoup ce que je vois de Denis. Beaucoup et beaucoup plus patient dans les échanges. Il choisit son moment pour attaquer. Je trouve ce qu'il faisait un peu moins bien durant l'été. Donc, tout va très bien pour Denis qui aurait pu très bien aller chercher ce match-là. Belle finale.
Cool. Nico?
Oui, j'ai senti un petit peu la même perception d'eux, c'est-à-dire que, tu sais, Chapeau, derrière main, il avait un petit peu d'une souris dans un labyrinthe, tu sais, torturé, il cherchait les solutions tout le temps, entêté, là, vraiment plus reposé, plus calme, sans pour autant délaisser cette espèce d'argne qui l'allume puis qui l'habite. Mais oui, plus concentré, puis honnêtement, les gars, je vais l'avouer ici, je pensais honnêtement que Medvedev allait se débarrasser de Chapeau facilement en deux manches. Puis au contraire, il m'a surpris, même que Medvedev a eu l'air déstabilisé à certains moments, monté au filet de manière étrange, des mauvais timings, des mauvaises décisions, des services aussi. C'est comme si Chapeau le déstabilisait, puis on parlait du parcours de Félix. Écoutez, Chapeau l'a battu Fritz, on l'a dit, Evans, Coric, qui n'est pas non plus un pied de céleri. Après ça, Medvedev va quand même enlever un set. Beau tournoi pour Chapovalov. Tant mieux s'il peut revenir, puis tant mieux si ça peut lui donner une swing là, pour le début de l'année 2023.
Ben, écoutez, tu sais, on a parlé souvent que ça n'a pas été une saison à la hauteur des attentes, sans que ce soit une mauvaise saison dans le cas de Chapeau, parce que, bon, quand tu es dans le top 20 mondial, tu es quand même, faut que tu aies une saison respectable, là. Mais quand on regarde à la hauteur des attentes, tu sais, à Tokyo il n'y a pas si longtemps. Ben, même, remontons à Séoul. Finale à Séoul, demi-finale à Tokyo. Bon, à Stockholm, il n'a fait que deux tours. Et là, une autre finale à Vienne. Ça ressemble à une bonne fin de saison pour Shapovalov. Et c'est une méchante bonne nouvelle pour la Coupe Davis qui s'en vient. Avec les Canadiens qui vont arriver en jambes, là, on va être très, très, très dangereux, messieurs.
Et on tend à l'oublier, mais Chapeau est quand même 16e mondial. Tu sais, oui, il n'a pas si bien joué que ça au cours de la dernière année et demie, mais il demeure quand même dans le top 20. Il est combatif. Non. Il n'y a pas une glissade si pire que ça. Là. Il est encore 16e. Il a encore des points à gagner à cause de l'année difficile qu'il a eue. Honnêtement, je pense qu'on peut revoir Chapeau dans le top 15 avant longtemps.
Ben, écoute, top 15, il est pas loin, là. Il est à côté, il est 16e présentement, là. Alors, s'il y a une bonne fin de saison, c'est raisonnable qu'il puisse se rapprocher étrangement du top 10. Messieurs, on va faire une courte pause, mais juste avant, Hugues, est-ce que tu, t'es en direct de Montville, de retour au Montville. Qu'est-ce qui se passe au Montville cette semaine?
Alors, au Montville, ben écoutez, il y a toujours plusieurs promotions. Je vais vous faire un petit survol là, de ce qu'on peut voir cette semaine. Au menu, on sait qu'ils ont réouvert leur restaurant sous le nom Monem. Et le Monem, évidemment, présentera dans les prochaines semaines, dans le cadre de Montréal à table du 3 au 13 novembre, un menu spécial. Donc, tous les restaurants qui participent à Montréal à table ont un menu spécifique durant Montréal à table. Donc, un menu 4 services pour 55$. Venez faire un tour. Encore une fois, c'est un site qui est sublime. C'est un très beau restaurant au cœur du centre-ville. Donc, profitez de ce festival Montréal à table pour 55$ pour un menu gastronomique de 4 services.
Mon Dieu, 4 services pour 55$, ça me semble plus que raisonnable. D'ailleurs, moi, j'ai déjeuné encore une fois ce matin, encore très satisfait de mon déjeuner à l'hôtel Montville. Ça devient un peu ma petite routine. Alors, ben voilà, si vous voulez venir manger au Monem, je pense qu'il livre aussi, hein, si je me trompe-tu.
Oui, tout à fait.
Alors, vous pouvez avoir des repas gastronomiques en livraison également. Messieurs, on va faire une courte pause au retour. On va parler de ce qui se passe à Paris. On va regarder du même coup ce qui va se passer du côté de la race pour le tournoi de fin de saison. Dernier tournoi Masters 1000 de la saison, messieurs, dernier tournoi calendrier pour les joueurs de l'ATP, ça va se passer à Paris. C'est le tournoi qui va décider des dernières places finales pour cette course à la qualification du tournoi de fin de saison, les finales de l'ATP. Je rappelle que Félix, présentement, est au
sixième rang de la race.
Sixième rang. Il reste 6 et 7 là, qui sont pas encore qualifiés pour ce tournoi de fin de saison-là. 8, vous me dites qu'il va avoir les 8. Exact. Il y a toujours Djokovic là, qui est qualifié d'office. Alors, il reste Taylor Fritz, Hubert Hurkacz, Andrei Rublev et Félix Auger-Aliassime qui pourraient se qualifier. Honnêtement, ça va prendre un scénario catastrophe pour pas que Félix se qualifie. Il est en excellente position. Ça prendra un scénario là, presque impossible, là. Hugues, je ne sais pas si tu as fait les calculs, là, mais ça ressemble à quoi les possibilités pour Félix?
Ben, écoutez, c'est évidemment le mieux placé des quatre joueurs que tu viens de nommer. Le seul qui pourrait le rattraper encore, c'est Taylor Fritz. Ils font un scénario vraiment catastrophe, comme tu dis. Il faudrait que Félix perde au premier tour à Paris, en fait. Son premier match qui est au deuxième tour et que Fritz remporte le tournoi en battant Rublev en demi-finale. Donc ça, c'est la seule façon que Félix ne peut pas se qualifier dans les 8 pour les finales de l'ATP. Pour les autres, c'est pratiquement impossible parce qu'ils sont tous du même côté du tableau.
Exact.
Donc, à un moment donné, celui qui est le plus mal placé, je dirais, c'est Hurkacz en ce moment, qui va jouer contre Manarino au premier tour, potentiellement tout de suite contre Rublev après au troisième tour. Donc, pour Hurkacz, je pense que c'est plié directement. Puis après, je pense que moi, je pense qu'on va voir Roublev et Félix là, confirmer leur ticket cette semaine. Et il y aura potentiellement une rencontre entre Alcaraz et Roublev en quart de finale et potentiellement une demi-finale Félix contre Alcaraz ou Roublev après avoir une rencontre contre Medvedev en quart de finale. Donc, encore une fois, au niveau du calcul, moi, je vous dis tout de suite, Félix va être là. Il faut vraiment un concours de circonstances improbable pour qu'il ne se rende pas au final de la tournée.
Non, exact. Et là, si vous faites le calcul, vous allez sur le site de l'ATP ou sur les sites qui donnent les rangs et vous faites « Ouais, mais tel joueur peut faire plus de 1000 points. » Mais il y a des scénarios qui sont comme impossibles, exact, justement, tu le parlais, à cause de la configuration du tableau.
Voilà.
C'est ça qui rend les choses intéressantes. Et d'ailleurs, Félix pourrait très bien sceller son propre sort assez rapidement parce qu'il pourrait affronter Taylor Fritz, exact, au troisième tour.
S'il le bat, c'est réglé. Il a 725 points d'avance là, sur Fritz, Félix. Donc, encore une fois, je pense qu'on peut prendre le pari là, que pour Félix, c'est réglé et qu'on va le voir au final d'ATP et qu'il va faire beaucoup de points et une très belle bourse aussi. J'en parlais un peu avec Jean-Charles ce matin. Il me disait, qu'est-ce que tu fais si tu es le coach de Félix, il est qualifié, disons qu'il bat Fritz au troisième tour. Ben moi je pense qu'il doit aller jusqu'au bout à Paris. Les Masters 1000 après les Grands Chelems sont les tournois les plus prestigieux. C'est un peu une récompense quand tu vas au final de l'ATP parce que les bourses sont énormes. Ce qui est le fun, c'est que si le premier rang mondial n'est pas décidé, il y a une possibilité que ça se joue à ce dernier tournoi-là de l'année. Mais encore une fois, les Masters 1000 et les Grands Chelems sont plus prestigieux que les finales de l'ATP. Et voilà, c'est pour ça que je m'attends à ce que Félix fasse une très bonne semaine, là, même s'il gagne au troisième tour et que son ticket est validé déjà.
Nico, à quoi t'attends-tu pour Félix à Paris?
Je m'attends vraiment à un gros tournoi, d'autant plus que... Oui, on l'a dit, le Fritz n'est pas officiellement qualifié. Donc, si les deux se rencontrent, il faut s'attendre à ce que Fritz sorte extrêmement fort.
Ah oui,
Et ce que j'aimerais de Félix là, dans ce tournoi-là, c'est que, bon, je reviens aux critiques auxquelles il doit faire face là, concernant cette fin de saison. Ça viendrait cimenter et ça viendrait fermer le clapet de beaucoup de gens. Félix atteignait une demi-finale ou même juste atteindre la finale, ce serait grandiose. Hugues l'a dit. Masters 1000, l'équivalent, donc, pour les gens qui sont moins familiers à l'Omnium Banque Nationale, là, c'est le même principe.
Même niveau.
Ce serait fabuleux. Puis Félix est tellement dans de bonnes conditions que je m'attends à rien de moins d'un carré d'as. Mais en même temps, si c'est pas le cas, ce serait compréhensible. Là. Il a joué tous les jours au mois d'octobre. C'est peut-être le désavantage de connaître une telle séquence. Là. Il a joué tous les jours du tennis à tous les jours. Donc, il faut le comprendre là, s'il arrive à Paris un petit peu. Fatigué ou moins reposé, mais il est tellement dans une bonne séquence. Puis Félix, on le sait, c'est un gars qui a une forme physique assez hallucinante. Il faut s'attendre à de grandes, grandes choses pour Félix.
En tout cas, pour ceux qui diraient qu'il y a encore des doutes sur Félix, quand tu regardes 4 titres dans la même saison, ajoute la Coupe ATP au début de la saison, voilà. Je veux dire, Colin...
Ah, puis Alex, c'est pas juste... C'est pas juste les titres, c'est le quart de finale en Australie contre Medvedev, c'est le match à Roland-Garros contre Nadal, c'est le match à Rome contre Djokovic. Il y a tout plein de rencontres dans cette saison qui ont été fantastiques. C'est le match à la Coupe Davis contre Alcaraz. Donc, c'est pas seulement les titres,
exact.
Oui, évidemment, mais ça a été une accumulation de matchs exceptionnels pour Ogiel Yassim qui font aujourd'hui qu'il est un joueur qui est de calibre top 5, voire numéro 1 mondial.
Honnêtement, il se place dans la course pour le joueur de l'année. Je pense pas qu'il est un candidat prime, comme on dit, mais il est dans la course pour être le joueur de l'année. S'il fallait qu'il remporte Paris, écoute, on va commencer à se poser de sérieuses questions. Maintenant, bon, évidemment, Nadal a 2 grands chelems, a gagné un peu plus tôt cette année. Bon,
Alcaraz,
définitivement, se place également là. Il est dans la course. Il est dans le top 5 des meilleurs joueurs cette année, je pense.
Ah oui, absolument. Et c'est une petite anecdote aussi. Là, on aime bien être précis sur nos statistiques sur la ligne. C'est le joueur du top 15 qui a joué le plus de tournois cette année avec 26 jusqu'à maintenant, donc 27 cette semaine. C'est quand même impressionnant. Après lui, là, on retrouve Casper Ruud qui joue beaucoup, on le sait, à 23 tournois. Tsitsipas à 23, Rublev à 23, mais 26 quand même pour Félix. Il a travaillé fort cette année, il a joué beaucoup.
Ça m'étonne que Djokovic ne soit pas là dans ton palmarès, Hugues.
je vous donne le chiffre de Djokovic, 13, ce qui est totalement inhabituel. Généralement, les joueurs vont se situer autour de 20 sur une année normale. Djokovic, pour les raisons qu'on connaît, il est à 13 cette année.
D'ailleurs, ça, c'est intéressant de ce qui se passe à Paris parce qu'il y a quelques joueurs qu'on n'a pas vu beaucoup dans les derniers mois, incluant Novak Djokovic, Nadal. Incluant Rafael Nadal. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Dans quel état il va se pointer, Rafael Nadal, messieurs? Est-ce qu'il est un prétendant au titre pour vous ou il sera un figurant? Nico?
C'est tellement dur. La compétition est tellement féroce. Puis il a manqué beaucoup de tennis. Les jeunes sont en feu. Tu sais, pour moi, Alcaraz est meilleur. Félix est meilleur. Tsitsipas, présentement, joue mieux. Fritz, s'il doit lutter pour sa vie, il va être meilleur que Nadal. Je peux pas mettre Nadal dans les... Oui, parce qu'il est l'un des plus grands, mais présentement, je peux pas mettre... Je pourrais pas gager une patte d'ours là, sur Nadal dans un corridor.
Et il a un tableau compliqué, messieurs. Très, très, très compliqué. Mais avant qu'on aille sur son tableau, Hugues, commentaire général sur Nadal, à quoi tu t'attends?
Ben, un, j'ai bien hâte de voir dans quel état sera Djokovic, premièrement, parce qu'il veut évidemment démontrer à tout le monde que c'est lui le meilleur encore, même s'il n'a pas joué beaucoup cette année pour toutes les raisons qu'on sait. Nadal, bon, je me dis toujours maintenant, quand il décide de faire un tournoi, il est là pour gagner. C'est un compétiteur acharné. Je pense qu'il doit être prêt. Nadal. Donc, j'ai bien hâte de voir comment il va se comporter. Par contre, dès son premier match, ça va être un Tommy Paul ou un Roberto Bautista Agut. Ça commence sérieux quand même. Mais quand même, je trouve que son côté du tableau jusqu'au demi-finale, qui serait potentiellement contre Djokovic. Imaginez Djokovic que Nadal du même côté du tableau. C'est un tableau qui est quand même peut-être plus navigable que le haut du tableau où on retrouve Alcaraz et Félix et Medvedev et Taylor Fritz notamment. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il y aura avec Nadal, mais je suis pas prêt à parier sur le fait qu'il se rende jusqu'au bout. Mais je pense que Djokovic veut beaucoup démontrer de choses cette semaine à Paris. Content de revenir en Masters 1000, évidemment. Donc, à suivre. Moi, je suis content de les voir tous les deux, mais je m'attends aussi à ce qu'on ait un des noms qu'on a vu cet automne se retrouver avec le trophée à Bercy cette année.
Moi, j'ai Djokovic comme champion, messieurs. Quand on regarde son, mais par contre, quand on regarde le tableau de Nadal, quand je disais que ce sera très compliqué, tu soulignais Roberto Bautista Agut potentiellement au deuxième tour. Roberto Bautista Agut, c'est un gars qui retourne tous les balles, incluant sur Nadal. Là, alors, ça peut être épuisant ce premier match-là.
Compatriote espagnol.
Exact. Espagnol. Et au deuxième tour, au troisième tour, t'as potentiellement Carreño Busta, champion à Montréal. Ou Chapovalov dans les pattes. Alors déjà, ce ne sera pas simple.
Quart de finale, peut-être.
Ouais, il a une fiche gagnante contre tout le monde, sauf Djokovic ou à peu près dans son parcours, là, Nadal. Ouais. Mais après ça, tu aurais un Tsitsipas, un Casper Ruud ou un Djoko en finale. Et peut-être un Alcaraz, un Medvedev, un OG Aliassime peut-être en finale.
C'est un Masters 1000. C'est un Masters 1000. Tout le monde est là. Hein. C'est un tableau incroyable. Là. Très, très beau tableau. Là.
Mais il n'y en aura pas de facile pour Nadal, messieurs, en début de tournoi. Pour le plaisir, Hugues, j'imagine que t'as rempli ton tableau des jeux, des prédictions de Tennis Canada. En tout cas, moi, je l'ai fait parce que on est encore en avance, mon cher Hugues, dans cette compétition-là. Tu vois qui comme champion de ce tournoi-là? Dis-moi, Félix.
Non, je pense que Medvedev va finir l'année en force. Donc, j'ai mis Daniil Medvedev jusqu'au bout. C'est un gars aussi qui aime les situations contrôlées au niveau environnement, au niveau surface. On sait qu'il n'aime pas beaucoup jouer sur terre battue. C'est un joueur de précision qui frappe la balle très à plat. Donc, je pense que ça a l'avantage. Et un autre truc qui l'avantage, un détail pour les amateurs comme nous, l'espace derrière le terrain à Paris est très grand et très dégagé, et ça, vous le savez, ça lui plaît. Il aime jouer de loin, il aime les recevoir souvent très loin derrière la ligne de fond de terrain. Donc, je pense que les conditions sont excellentes pour Daniil Medvedev, et j'ai mis Medvedev en finale de ce tournoi-là. Donc, ça voudrait dire potentiellement une victoire contre Félix en quart de finale.
Ouais, exact. Tu fais bien de le souligner. Moi, j'ai Medvedev en finale également, mais je le vois perdre contre Novak Djokovic. Je l'ai dit, déjà au deuxième tour, il aura potentiellement à Medvedev un demi-nord ou un corda dans les pattes. Alors ça, ce sera pas simple au deuxième tour.
Pas de problème pour Daniil.
Pas de problème pour Daniil. Nico, toi, tu t'attends à quoi comme champion de ce tournoi-là? Tu vois qui aller jusqu'au bout?
Note le temps, là, c'est 33-50 là, pour les archives. Là. Félix, le gagnant Félix, de ce Félix, tournoi-là... Félix. Le gagnant de ce tournoi-là sera le vainqueur de la demi-finale entre Alcaraz et Félix.
Ah, ben ça c'est intéressant. Ben écoute, moi, je vais être très honnête avec vous, messieurs, j'ai fait perdre Félix en quart de finale contre Daniil Medvedev. Il n'a pas une bonne fiche contre Medvedev. Vous allez me dire, c'est le bon timing pour le battre peut-être, mais s'il y en a un que c'est sa bête noire sur le circuit, c'est bel et bien Medvedev. Alors, je pense qu'on aura une demi-finale Alcaraz-Medvedev.
Je suis convaincu que si ce duel-là arrive, Félix va beaucoup penser à la balle de match qu'il a eue en janvier. Puis ça va le motiver au possible. Je suis convaincu, que Félix souhaite jouer ce match-là.
Oui, certain.
Ben, écoute, puis c'est honnêtement, si tu as un timing pour gager sur Félix, c'est difficile que ce soit pas le meilleur timing en ce moment. Là. C'est peut-être, comme on le disait, le meilleur joueur au monde présentement, du moins le joueur le plus hot sur le circuit. Ça, il n'y a aucun doute. Jackie Simard qui nous disait, lui qui voit Novak Djokovic, je pense que ça se défend très bien. Maintenant, il reste à voir quand, quel état il va arriver, mais il va arriver reposé. En tout cas, il n'aura pas joué trop de tennis. Lui, c'est le contraire de Félix. Messieurs, avant qu'on fasse la pause, je veux qu'on revienne sur un autre tournoi. On passe du côté des femmes maintenant. Tampico, parce qu'on a eu une, je ne sais pas si c'est une surprise là, dans les circonstances, mais on a eu droit notamment à un affrontement entre Rebecca Marino et Leila Annie Fernandez. Et Leila Annie Fernandez, qui fait généralement bien au Mexique, a baissé pavillon devant Rebecca Marino. Hugues, c'est une autre belle performance de Marino cette semaine.
Ben écoute, saison de rêve pour Rebecca Marino. D'ailleurs, on va travailler toi et moi sur un feature sur sa saison exceptionnelle. Rebecca est en grande forme au point où on se dit la Billie Jean King Cup s'en vient. Hein. D'ailleurs, nos équipes seront là pour poursuivre notre équipe canadienne dès la fin de cette semaine. Là. Donc, le tournoi se déroule du 8 au 13 novembre à Glasgow, et j'en parlais avec Valérie Tétrault, et c'est au point où on se demande qui sera la numéro un de l'équipe. Au printemps, c'est quand on a joué à Vancouver contre la Lettonie pour la qualification. Vous savez, Léla qui est numéro un. Elle a joué comme une numéro un. Là, il y a Bianca qui se joint à l'équipe, qui joue bien aussi. Mais là, Rebecca est peut-être une des plus constantes cette année. Donc, la victoire de Rebecca Marino contre Léla, elle n'est pas si surprenante que ça, même si le classement ne reflète pas vraiment cette position-là pour Rebecca. Donc, moi, je suis bien content de voir Rebecca gagner ce match-là. Je pense que Léla est encore en retour. Elle n'est pas encore à son plein niveau. Mais belle victoire pour Rebecca. Puis moi, je suis juste content de voir cette saison de rêve qui se poursuit pour Rebecca aussi.
Ouais, elle a fait la demi-finale, finalement. Elle a perdu contre Magda Linette, qui elle-même a... Oui, en 3-7, elle aurait très bien pu faire la finale. Malheureusement, pour Magda Linette, elle a elle-même perdu en finale contre Cocciaretto. Ouais. Cocciaretto, qui est, honnêtement, si vous la connaissez, chapeau à vous, parce que c'est une fille qui joue beaucoup de tournois de plus bas niveau. Elle a gagné beaucoup de challengers, et dans les gros tournois, elle a à peu près que jamais passé le deuxième tour. Là. C'est une fille qui est 65e mondiale présentement, alors c'est définitivement une victoire surprise. Nico, commentaire sur cette victoire de Rebecca Marino face à Leila Annie Fernandez?
Ça a été impressionnant, imprévisible, surtout, j'ai envie de dire, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, surtout que ce sont deux joueuses tellement différentes, puis tellement avec des profils tellement opposés.
Complètement.
Mais je réouvre la parenthèse sur la Billie Jean King. Note le timeline encore, Alex, le 37-46. où le Canada va être payant et où la différence va se faire, c'est en double. Je ne sais pas quelle est la stratégie de l'équipe canadienne, mais si on a un duo de Gabby Dabrowski avec Marino. Rebecca Marino, honnêtement, je ne vois pas qui peut battre ce duo-là présentement. Les deux joueurs sont exceptionnels en double. Et je vous le dis, si le Canada triomphe à la Billie Jean King Cup, ce sera grâce au match de double.
Ben, écoute, ça se défend. Puis autant du côté des hommes que du côté des femmes, à la Billie Jean King Cup et à la Coupe Davis, on va avoir des équipes A1 très compétitive et on a le droit de rêver. Là. On a le droit de rêver parce qu'on a une équipe d'un côté comme de l'autre pour aller jusqu'au bout. Et imaginez là, s'il fallait qu'on gagne la Billie Jean King Cup et la Coupe Davis après avoir remporté la Coupe ATP au début de la saison. Je veux dire...
Comme les Russes l'an passé avec les deux Coupes. Il va y avoir, je pense, une compétition ou une saine compétition entre les gars et les filles. Qui de l'équipe féminine et masculine va ramener la première coupe au pays. Je pense que ça va être intéressant aussi de voir cette petite compétition-là qui va s'établir aussi entre les filles de la Billie Jean King Cup et les gars en Coupe Davis.
Mais je vous pose la question, les gars, pour peut-être mettre à l'enjeu peut-être une tarte à la citrouille.
Pâte d'ours.
Ouais, mais là, c'est plus automnal. Là.
OK.
Qui, à votre avis, qui a le plus de chances de gagner? Les gars ou les filles?
Les filles. Je pense que les filles ont de meilleures chances de gagner.
Moi aussi, je pense.
Je pense que la profondeur de l'équipe ne fait pas de doute des deux côtés, mais je pense que Nico t'a mis le doigt sur notre joker. C'est le double, effectivement, avec Gabby Dabrowski, qui d'ailleurs est au final de la WTA à Fort Worth cette
semaine. En deuxième place.
En deuxième favorite, exactement. Donc, je pense qu'avec le gros service de Rebecca Marino, les volées pour Gabby vont être faciles au filet. Ça va être vraiment beau à voir, mais je pense qu'on a une profondeur au niveau des filles qui est inégalée en ce moment au niveau mondial. Et moi aussi, je donnerais un petit avantage pour les filles pour remporter le trophée par pays cette année.
La bonne nouvelle, c'est que le Canada n'est pas nécessairement dans le groupe de la mort. Là. Je pense que le groupe de la mort, c'est République tchèque, États-Unis et Pologne. Là. C'est un groupe assez spectaculaire. Là. Canada, la Suisse et l'Italie, ce sont deux bons pays du côté des femmes. Mais je pense que Canada part favori dans son groupe si toutes nos joueuses sont présentes. Messieurs, on va faire une courte pause, mais avant, eux, rappelle-nous donc ce qui se passe du côté de l'hôtel Montville cette semaine. Tantôt, tu nous parlais d'un repas 4 services à 55 $. Honnêtement, ça me donne le goût de venir manger ici.
Oui, ben écoute, venez faire un tour. C'est Montréal à table du 3 au 13 novembre. Donc, un menu spécial, 4 services pour 55 $ au Montville. Et il y a toujours des promotions qu'on vous met de l'avant chaque semaine. Il y a toujours ce spécial d'automne avec jeux de société, cocktail signature, petit déjeuner, plateau d'huîtres. C'est la saison des huîtres en ce moment, plateau de fromage. Donc, venez voir sur le site hôtelmoinville.com et vous verrez tout ce qui se passe dans cet hôtel magnifique au centre-ville.
Mon Dieu, t'es né pour faire de la promotion, toi, Hugues. Et honnêtement, on en parle souvent de l'hôtel Montville, là, mais quel bel hôtel. Puis je sais que c'est un partenaire avec nous, mais je le pense sincèrement. C'est tellement bien situé au centre-ville.
Vraiment agréable, vraiment agréable ici.
Les chambres sont vraiment spectaculaires. Le lobby est spectaculaire. Nico tripe sur le petit robot serviteur.
La terrasse sur le toit est une des plus belles à Montréal. Sûrement la plus belle, à mon avis.
Plus je côtoie Hugues, plus je me dis que ce gars-là a fait de carrière en marketing.
Oui, il répète pas pire, je pense, en marketing. Messieurs, on va faire une courte pause au retour. On va parler de ce qui va se passer du côté de Fort Worth parce que c'est la finale du côté de la WTA. Oui. Mais d'abord, on va parler de Leila Annie Fernandez, une des athlètes les mieux payées au monde. Nico, as-tu eu le temps de reprendre ton souffle avant que je parte
ta pause? C'est comme... en tout cas, il y a des trucs qui se passent dans ma trachée qui ne sont pas régulés comme il faut.
Ah, c'est pas facile. Hein, c'est parce que tu n'as pas fait tes vocalises avant de rentrer
Exactement.
En onde. C'est ça qui arrive. Hein. Un pro de la voix comme toi. Là.
Je suis un peu le Whitney Houston de la radio montréalaise.
Ben ça, écoute, on le pense tous.
Nico, essaye une petite shot de sirop d'érable, là, comme plusieurs de nos joueurs canadiens ont fait au fil des années. Ça donne de l'énergie et ça éclaircit la gorge.
Ouais, mais ça doit pas être super bon pour la voix, honnêtement. Visqueux comme ça, là, mon feeling, c'est que c'est pas recommandé nécessairement pour la voix, en tout cas. Enfin, faudrait inviter un professionnel de la voix pour en parler. Messieurs, parlant de professionnels, parlons de tennis professionnel. Parce que moi, j'ai été surpris de voir ça. Peut-être que je suis naïf, là. Je savais que Leila Fernandez, ses revenus avaient explosé, mais je ne pensais pas à ce point-là, Hugues, elle est parmi les athlètes les mieux payés dans le monde du tennis, en tout du moins pour la dernière année.
Oui. Ce qui est intéressant au fil des années pour mettre la table sur les revenus des joueuses de tennis, c'est que année après année, c'est le tennis qui est le sport féminin qui amène les joueuses les mieux payées. Il y a eu Sharapova très longtemps, Serena Williams. On sait maintenant c'est Naomi Osaka, mais c'est un sport qui plaît aux commanditaires parce que ce sport se joue partout sur la planète, se joue semaine après semaine. Donc on a une récurrence, une fréquence durant toute l'année qui plaît beaucoup aux annonceurs. Et ce qui est intéressant, Alex, avant de passer spécifiquement sur Leila, les trois premières joueuses donc sportives les mieux payées sont trois joueuses de tennis, Naomi Osaka, Serena Williams, donc deux qui sont plus ou moins ou pas du tout active en ce moment du côté de Serena. Et Emma Raducanu qui a mis la main sur le pactole suite à sa victoire au US Open en 2021, mais on sait que c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que les ratios de ces entre les bourses et les commandites sont complètement disproportionnés du côté des commandites, évidemment, pour ces trois joueuses-là, parce qu'elles font pas de points, elles ne performent pas, donc elles gagnent pas beaucoup de bourses. Donc, c'est quand même les trois mieux payés. Donc, Osaka avec 53 millions, Serena avec 35 millions et Raducanu avec 26 millions. Et au dixième rang arrive notre Leila Fernandez avec 6,4 millions, donc 4,5 millions en commandite. Des grosses signatures quand même cette année. Lululemon, Morgan Stanley, Gatorade, Subway.
Donc, les avocats du Mexique.
Oui, exactement. Donc, c'est bien mérité parce qu'on sait que Leila est passée par des années, et sa famille, par des années difficiles au niveau financier. Il y avait beaucoup de difficultés à arriver jusqu'à il n'y a pas longtemps, avant l'US Open l'an passé. Et là, elle est beaucoup plus confortable au dixième rang avec ses 6,4 millions. Et c'est entièrement mérité. Et on a parlé aussi à quelques reprises, son profil, son attitude, le fait qu'elle soit trilingue, ce sont tous des éléments qui parlent en sa faveur au niveau commandite. Donc, c'est entièrement mérité. Très content de voir Leila dans le top 10 des athlètes féminines les mieux payées au monde.
Et le tennis qui continue de dominer le palmarès. Je pense que c'est 7 des 10 premières dans ce top 10-là qui sont encore une fois du tennis. Parce que Simone
Biles, Swiatek, Barty sont là aussi dans le top 10.
Et ce que je trouvais intéressant de Swiatek, et tu me diras si je me trompe, là, mais selon les chiffres que j'ai vus, c'est la seule dont les revenus ont été plus importants en bourse de tournoi qu'en commandite. Écoute, ça, c'est intéressant parce qu'on parle de la fille numéro 1 mondiale.
Largement, Alex, largement. Donc, 8,3 millions. Donc 6 millions ou presque viennent des bourses et un petit peu plus de 2,5 millions du côté commandite. Donc effectivement, Swiatek semble moins marketable, pour reprendre ce mot-là, que d'autres choses.
Et pourtant, elle est, tu sais, je veux dire, c'est une fille qui paraît bien, elle est numéro mondial, elle connaît une séquence dominante. Peut-être que c'est encore trop tôt, peut-être que c'est ces résultats de cette année-là, on va voir les dividendes l'année prochaine, peut-être.
Moi, je dirais que son personal branding, sa marque personnelle, est peut-être un peu moins établie que les autres au niveau attitude, valeur, prise de position et tout ça. Donc, je pense que son branding personnel peut être travaillé encore pour que ça soit plus précis au niveau des annonceurs et qu'elle trouve des matchs et des fits qui feront du sens au niveau des marques.
Intéressant. Est-ce que Raducanu, selon toi, c'est une bulle qui va continuer de lever ou est-ce que l'année prochaine, on risque de la voir sortir du top 10 au niveau des revenus?
C'est sûr que les annonceurs se sont précipités après sa victoire au US Open. Donc, la combinaison de gagner un grand chelem aux États-Unis, c'est une Anglaise, British, donc très, très jolie fille, il faut le dire aussi. Elle plaisait beaucoup à des commanditaires dans le domaine du luxe et du lifestyle. C'est Tiffany & Co., donc le joaillier qui l'a signé en premier. Mais il faut que Raducanu commence à performer parce que ça va s'éteindre très rapidement et ça va s'étioler au niveau des commandites, un peu comme Eugénie Bouchard a pu le vivre aussi après sa deuxième, troisième année sur le circuit, c'était plus compliqué. Donc, il faut que Raducanu performe aussi. Et on sait que les montants des commandites sont souvent reliés à des performances, à des niveaux de classement. Donc, si elle veut toucher le maximum de ses commandites, il va falloir qu'elle commence à enchaîner des victoires Emma Raducanu.
Et en regardant le tableau, Hugues, j'avais une question que j'avais pour toi. Ce genre de contrat-là, là, lorsqu'on parle que, par exemple, Raducanu qui est avec Porsche, par exemple, oui. Est-ce que c'est en termes d'années? Est-ce qu'on se dit c'est pour 4 ans? Fait que peu importe ce qui arrive, que tu gagnes un titre ou zéro titre, c'est pour 4 ans ou ça va dépendre des résultats? Comment ça fonctionne?
C'est certain qu'il n'y a aucun agent qui va accepter des contrats de moins de 1 an, 2 ans, 3 ans. Souvent, on vise 3 ans. Mais le problème, c'est qu'il faut gagner aussi. Donc, tu vas avoir une partie fixe. Donc, c'est sûr que Raducanu, même si elle ne gagne plus jamais un tournoi de sa vie, elle va quand même toucher quelque chose pour la durée du contrat. Mais ça devient vraiment payant quand elle atteint des niveaux de classement, des victoires en grand chelem qui garantissent une visibilité pour les commanditaires parce que c'est ça qu'on veut. Si Emma Raducanu n'est pas en quart de finale ou demi-finale, on ne la voit pas. Donc, évidemment, il faut qu'elle commence à gagner pour toucher le maximum. Mais elle aura quand même un revenu minimum là, qui sera relié à ses commandites, même si elle ne gagne pas de tournoi ou elle ne se rend pas loin dans les grands tableaux des rangs.
Donc, ça va être un contrat signé. Il faut s'attendre à l'avoir Osaka, Raducanu et Fernandez dans ce top-là pour au moins 2, 3, 4 ans encore, même si les résultats divergent.
Exactement. Puis l'autre qu'il faudra vérifier, c'est justement Osaka, qui est la première et de loin à 53 millions. Imaginez, Serena Williams est à 35 millions après, Raducanu à 26. Donc, Osaka a le double de Raducanu et Osaka, on sait pas trop ce qui s'en vient pour elle, mais encore une fois, elle se repose sur ses contrats. Ça va durer encore un an, deux ans, trois ans, mais après, il va falloir qu'elle démontre à ses commanditaires pourquoi il devrait toujours être avec elle.
D'ailleurs, ça va être intéressant de suivre Raducanu parce que, bon, là, cette année, elle avait virtuellement pas de points à défendre, mais l'année prochaine, peut-être au milieu de la saison, si sa descente se continue, elle va devoir avoir besoin de wildcard pour rentrer dans des tableaux principaux potentiellement. Là, si ça se continue comme ça, à gagner ou à pas gagner à chaque tournoi, là, en perdant d'entrée de jeu ou presque, là, alors ça va être intéressant à suivre. Messieurs, il nous reste que quelques minutes. Je m'en voudrais de pas parler du tournoi de fin de saison. Je veux pas trop qu'on fasse une grosse affaire parce que bon, ce tournoi-là n'est pas commencé encore ou commence à peine. Là, mais ce dont je veux parler, c'est des joueurs qui sont présents. Alors, il va y avoir Iga Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula, Coco Gauff, Maria Sakkari, Caroline Garcia, Sabalenka. Et celle sur laquelle je veux mettre l'accent, c'est Daria Kasatkina. Cette fille-là participe au tournoi de fin de saison, les finales de la WTA, puis elle était chez nous, à Granby, plus tôt cette année. Ça vous dit la qualité de joueuse, et on comprend facilement pourquoi est-ce qu'elle a pu remporter ce tournoi-là à Granby, mais si vous n'êtes pas déplacé pour venir voir Daria Kasatkina, ben c'est une fille qui est dans le top 8 présentement des meilleures joueuses au monde.
Absolument. On a eu la chance de pouvoir parler avec elle à plusieurs reprises. Une fille extrêmement, extrêmement sympathique. Moi aussi, ça m'a fait très plaisir quand j'ai vu qu'elle terminait dans les 8 qualifiés pour les finales de la WTA, donc à Fort Worth, au Texas. Elle est dans le groupe Tracy Austin avec Swiatek, Coco Gauff, Caroline Garcia. Elle va en avoir plein les baskets, Kasatkina avec sa raquette Décathlon. Mais ça va être vraiment intéressant de voir comment elle va s'en tirer. Puis moi, j'ai apprécié voir Kasatkina jouer de très près parce que c'est l'avantage qu'on a, comme on le répète aussi souvent quand on va voir les matchs à Granby. Joueuse tout en précision, en finesse, en tactique. C'est pas une grosse cogneuse, c'est pas une joueuse qui a une grosse deuxième balle de service, au point même où ça m'étonnait que sa deuxième balle soit pas plus attaquable que cela. Mais donc, elle sera là à Fort Worth cette semaine. Puis qui sait si elle pourrait pas faire une surprise.
Mais elle est régulière, elle est très régulière. Ah, elle retourne beaucoup, beaucoup, beaucoup de balles. Ouais, tu veux l'acheter?
Non, c'est okay. Ça. Donc, Kasatkina dans le groupe Tracy Austin, et ça, j'en profite pour parler du deuxième groupe, qui est le groupe Nancy Richey, donc avec Ons Jabeur, Pegula, Maria Sakkari et Sabalenka. Donc, on va suivre ça avec intérêt cette semaine.
Je voudrais pas, les gars, être obligés de miser sur ce tournoi-là. Pour moi, les 8 filles peuvent gagner, c'est pas compliqué. Les 8 filles peuvent sortir du lot. Et elles ont tous des points positifs, des points négatifs. En tout cas, je ne sais pas si vous voulez vous mouiller pour des prédictions, parce que tu sais, lorsqu'on regarde le tableau, oui, Swiatek, elle est la meilleure, sans aucun doute, mais après, sur la surface, cimentée, c'est pas top. Jabeur, fin de saison, ça. Pegula est en feu présentement, comme Coco Gauff et Sakkari. Garcia, on le sait, quelle belle surprise cette année. Sabalenka peut sortir du lot à n'importe quel moment, c'est l'une des filles les plus puissantes. Je l'aime énormément, vous le savez. Ensuite, Kasatkina, qui n'a rien à perdre. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus dangereux qu'un joueur ou une joueuse qui n'a rien à perdre? Honnêtement, ça va être... Oui, on parle beaucoup des finales de l'ATP avec raison parce qu'il y a Félix, mais il ne faudrait pas sous-estimer puis balayer sous le tapis les finales de la WTA parce que ça va être hautement intéressant à suivre.
Hey, les gars, pourquoi pas une finale Gauff-Pegula en simple et une victoire aussi en double? Parce qu'elles vont jouer en double. Elles sont les troisièmes favorites en double. Moi, je pense que les Américaines vont faire flèche de tout bois à Fort Worth. Là, et je m'attends à une grande semaine là, de la paire Gauff-Pegula et en simple et en double.
Ben, Pegula, messieurs, je veux dire, elle connaît une bonne fête, elle connaît une bonne saison. Point, là. Ça serait pas surprenant qu'elle gagne Coco Gauff. Ça se pourrait très bien aussi qu'elle remporte son premier grand titre. Allons-y, là, messieurs. Donnez-moi deux noms potentiels que vous voyez championnes de ce tournoi-là. Moi, j'ai commencé, je veux dire, Swiatek et Pegula sont mes deux joueuses que je prendrais pour gagner ce tournoi-là. Nico?
Même chose. Exactement la même chose.
Moi, j'y vais avec Gauff et Pegula, comme je viens de le dire. Je pense que c'est elles qui vont nous en mettre plein la vue cette semaine. Et Je vous parie une finale, une victoire en double de Gabi Dabrowski avec sa collègue Olmos, là. Donc, ils ont très bien joué en fin d'année aussi, les deux. Donc, je m'attends à une victoire en double de Gabi Dabrowski.
Intéressant. Messieurs, je vous remercie infiniment pour ce nouvel épisode du Radio Podcast sur la ligne. Je rappelle qu'on est diffusé sur toutes les plateformes de balado et on est également à BPM Sport. D'ailleurs, il faut faire une chronique dans pas long. Messieurs, Hugues, je te demande pas qu'est-ce qu'on a à surveiller parce qu'on en a parlé en long et en large durant l'émission Tournoi des femmes à Fort Worth et à Paris du côté des hommes. Mais Nico, toi, tu as ton mandat habituel. Oui, vas-y.
Allez, un dernier petit point. Regardez le Masters de Paris si vous pouvez. C'est une des plus belles entrées sur le terrain des joueurs au niveau de la mise en scène audio-vidéo. Ils mettent le paquet à Paris. C'est un très beau tournoi à regarder au niveau télé. Donc, regardez l'arrivée des joueurs dans le couloir. C'est spectaculaire.
Cela dit, un autre trophée dont je ne suis pas fan, il est deuxième en arrière de celui de Cincinnati. Ce n'est pas mon préféré, celui à Paris. Je peux vous dire ça. En tout cas, Nicolas Richard, par contre, toi, je te donne ton mandat habituel, l'important mandat de terminer l'émission. Dernier mot, mot de la fin, mon cher Nicolas Richard.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde et joyeux Halloween!